Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, la nativité selon les écrits de Maurice Zundel. Voici l'intervention de France-Marie Chauvelot, écrivain, auteur de la biographie de Maurice Zundel, intervention enregistrée le 9 décembre 2023 lors des samedis de Belloc, proposée par la communauté de Belloc et Radio Lapourdie. Avant d'entendre l'intervention de France-Marie Chauvelot sur Noël, sur la nativité, France-Marie Chauvelot nous rappelle qui était l'abbé Maurice Zundel.
Maurice Zundel est un prêtre catholique suisse qui est né en 1897, mort en 1975. Très tôt, ce jeune intellectuel a eu des expériences spirituelles qui lui ont fait comprendre ce que c'était que la pauvreté de soi. Donc on a parlé de lui comme d'un François d'Assise intellectuel. C'est un garçon extrêmement brillant qui va être prêtre très jeune. Son évêque lui ouvre les portes de la prédication, le présente à Jacques Maritain, etc. On va en faire une flèche thomiste. Mais chez lui, comme il le dit souvent, je voudrais tout oublier ce que j'ai appris pour retrouver l'expérience. Expérience qu'il n'a pas vraiment perdue parce qu'il sait la reproduire. Mais l'expérience spirituelle, il en a eu à son adolescence. Il a su très tôt qu'il voudrait être prêtre. Il a eu notamment une expérience mariale, qui lui a montré la transparence et la pureté de l'être dans une transparence au Dieu intérieur. Voilà, avec, c'est ça la virginité et c'est ça la maternité divine chez lui. C'est-à-dire que quand on protège Dieu en soi, on peut protéger tout l'univers en soi puisque Dieu est partout. Et Maurice Zundel, donc, très tôt, a eu des sermons très engagés sur la pauvreté. Mais la pauvreté n'a pas été bien comprise parce que lui, c'était autant la pauvreté de soi que la pauvreté matérielle. Son évêque trouvait que c'était un peu dangereux, c'était un peu progressiste. Et il lui a demandé d'aller revoir sa théologie à Rome. C'était amusant parce que c'était quand même un des premiers du séminaire. C'est quand même un grand théologien, Zundel, je veux dire, il connaît très bien. Il a un cerveau qui fonctionne dans la mémoire remarquablement. Et donc, quand il est revenu de Rome, son évêque, très troublé, ses paroissiens étaient très gênés avec Zundel. C'était un discours très novateur, on ne savait pas très bien quelle place lui donner. Son évêque l'a envoyé en France. En France, il trouve des petits postes, à part un à la rue Monsieur qui le met en lien avec toute l'intelligentsia catholique, le reste est un peu problématique. Il est aumônier dans un lycée à Neuilly, il rentre chez lui en Suisse pour les vacances de 1939, il ne peut plus revenir en France, c'est la guerre. Donc à ce moment-là, Louis Massignon, qu'il avait rencontré à la rue Monsieur, lui propose de partir au Caire. Donc il le fait recevoir par des amis, etc. Et bloqué par la guerre, Maurice Zundel va y rester 6 ans. Ensuite intervient Nagasaki. Ça le démonte totalement. Et il écrit à ce moment-là, croyez-vous en l'homme. Parce que l'homme peut être des créateurs. Et ça, c'est quand même une responsabilité. Donc la foi en Dieu, elle suppose une foi en l'homme. Et il est très fort là-dessus, très puissant. Dans son argumentation, qui ne croit pas en l'homme, ne croit pas en Dieu. C'est assez fort dans ce contexte. Et quand il revient en Suisse, à ce moment-là, il occupe divers petits postes paroissiaux jusqu'en 72, où le pape fait appel à lui pour la retraite de Carême au Vatican. Parce que Paul VI l'avait rencontré à la rue Monsieur, ils avaient eu pas mal de discussions ensemble quand Paul VI n'était encore que Jean-Baptiste Montigny. Et il a toujours suivi un peu les écrits de Zundel, qui a quand même produit 19 livres avec une mystique que vénérait Paul VI, vraiment. Et donc il lui demande de venir prêcher les retraites au Vatican. Et alors Zundel, ahuri, qui lâche son balai de curiste, quoi. Il était dans une petite abbaye de banlieue de Genève, lâche tout pour venir. Il n'a rien eu le temps de préparer parce qu'il avait des conférenciers là de sous le manteau. Parce que l'Église l'a quand même beaucoup marginalisé, Zundel. Et donc, quand il arrive, il fait 22 conférences a cappella, qui sont le résumé de sa pensée, en fait. Et qui s'intitulent aujourd'hui « Quel homme, quel Dieu ?» C'est son livre posthume, parce que Paul VI lui a demandé de le travailler et de l'écrire, puisqu'il était oral. Et donc, il l'a retravaillé pendant les dernières années de sa vie. « Quel homme, quel Dieu ?» Et alors là, c'est intéressant parce qu'il s'adresse à l'Église comme il s'adresse à l'humain. Il a vraiment les mêmes recommandations de la transparence au Christ. Quand l'Église n'est pas transparente au Christ, ce n'est pas l'Église. Et nous, c'est pareil. Nous sommes l'Église quand nous sommes transparents au Christ. Donc c'est une pensée qui est très en avance encore sur son temps, qui est ouverte qui parle beaucoup, par exemple, à des orientaux. Les Égyptiens et les Libanais ont adoré Zindel parce qu'ils le comprenaient, ils comprenaient sa mystique et elle leur parlait vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, la pensée de Zindel est connue par le Père Varillon, quelque part. Hein, l'humilité et la pauvreté de Dieu, c'est le Père Varillon qui l'a fait connaître. Mais sans citer Zindel, très marginalisé par l'Église, mais c'est Bernard de Boissière qui nous a fait connaître Maurice Zindel aujourd'hui, qui alimentait le Père Varillon avec les conférences de Zindel.
Noël, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voici à présent l'intervention de France-Marie Chauvelot, enregistrée le 9 décembre 2023 à l'abbaye de Belloc.
Alors, je suis ravie de vous retrouver pour aborder ensemble ce thème très particulier de Noël. Noël, où Dieu s'incarne pour que l'homme devienne Dieu. Ça paraît ahurissant à entendre. Quand on a une image de Dieu de l'Ancien Testament, comment imaginer une seconde que l'homme puisse devenir Dieu ? Quel orgueil ! C'est invraisemblable. On ne connaît même pas la nature de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait devenir Dieu ? Comment ça se passe ? Et Zindel répond : c'est prodigieux. Parce que dans cette nuit de Noël, nous changeons de Dieu. L'incarnation est quelque chose d'absolument incompréhensible pour tous ceux qui n'empruntent pas la voie chrétienne. Elle choque, elle scandalise. Un des grands mérites de Zindel, c'est d'entrer dans ce mystère et d'essayer de nous le partager à sa manière. N'oublions pas que Zindel a vécu des expériences spirituelles majeures. Et que dans sa contemplation, il a été amené à s'imprégner, à percevoir et à nous expliquer, à partager avec nous une démarche spirituelle. Qu'est-ce que cette incarnation de Dieu ? Si Dieu est solitaire, il est forcément à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on s'adresse à Dieu, on lui parle, on attend de lui, on lui demande, il ne répond pas toujours. Quand Dieu ne répond pas à notre demande, on peut se poser la question, un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre qui nous laisse dans cette impasse, parce qu'on a souvent le sentiment d'une impasse, est-il vraiment tout-puissant ? S'il n'est pas tout-puissant, existe-t-il ? Est-il Dieu ? Qu'est-ce que ce Dieu ? Et nous, vis-à-vis de ce Dieu extérieur auquel on s'adresse comme à un père qui ne répond donc pas, nous restons des enfants. C'est-à-dire qu'on demande qu'il intervienne, on attend tout de Dieu. Si nous restons des enfants, nous n'allons pas grandir. Nous allons passer à côté de notre vocation d'homme. Et cela pose grandement le problème du mal. Puisque Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, laisse le mal intervenir et nous laisse entrer en tentation et nous laisse subir les conséquences du mal et le propager, qu'est-ce que ce Dieu-là ? Comment croire à ce Dieu ? Et d'ailleurs, c'est le problème qui va se poser à la Seconde Guerre mondiale, où pour beaucoup, Dieu est mort dans les camps. Hein. Zindel très tôt avait perçu d'ailleurs que cette interrogation se poserait dès la fin de la Première Guerre mondiale. Aux conditions de reddition, il a tout de suite compris qu'il y en aurait une seconde. Et il s'est demandé comment Dieu allait résister à ces circonstances très humaines. Si Dieu est Père et Fils, la problématique commence à changer, mais on passe d'une relation solitaire où Dieu est extérieur à une relation binaire où il y a Dieu Père, Dieu Fils. La relation duelle, elle est forcément dangereuse parce qu'elle peut être tout à fait narcissique et possessive. Le père regarde le fils pour que le fils le fasse exister et le regard inversement, le regard du père fait exister le fils. Un ferme les yeux, l'autre existe-t-il ? Or, c'est bien la relation dans laquelle nous naissons, nous. Nous naissons dans cette relation duelle. Quand nous naissons, nous rendons nos parents parents. Et nos parents nous rendent leur enfant par le regard qu'ils portent sur nous. ce qui nous rend extrêmement dépendants affectivement du regard de nos parents, comme nos parents supportent très mal que leurs enfants ne les regardent pas, parce qu'ils les dénient en tant que parents. Donc cette interdépendance, dont on voit bien comme elle est un peu dangereuse, possessive, narcissique, et pour vivre, on a besoin de l'autre, mais c'est un besoin utilitaire qui nous fait exister, et sans lequel, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? Où sommes-nous? Cette relation très humaine, c'est une relation que nous projetons en général sur tout ce qui nous touche. Nos enfants, nos relations, nos amis, la vie en société, c'est cette relation duelle, très possessive, qui fait qu'on a toujours, on est toujours dans l'agression, la relation, c'est une relation très compliquée à exercer. Entendons bien ce qui a été dit. Dieu est Père, Dieu est Fils. Autrement dit, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a rien. Dieu n'a rien. Dieu est. Dieu est Père, Dieu est Fils. C'est Dieu qui s'incarne à Noël. C'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est une réponse que Zindel adresse également aux musulmans qui sont très choqués par l'idée d'un Dieu Père qui a un Dieu Fils. Ça va beaucoup plus loin. En Dieu, de tout temps, de toute éternité, il y a le Père, il y a le Fils. En Dieu, il y a déjà l'autre, de toute éternité. Et ce qui va désapproprier, déposséder la relation à l'autre, c'est la présence de l'Esprit. Cette relation que nous avons vue entre Père et Fils, avec ce double regard qui fait exister l'un, qui fait exister l'autre, par l'un et par l'autre, est désappropriée par la présence de l'Esprit. Elle est dépossédée. Dieu n'est qu'amour. En lui, il y a l'altérité. Et en lui, il y a la dépossession. Je suis celui qui suis. Cette énergie incessante qui tourne dans le regard vers l'autre, sans s'en nourrir, sans s'en emparer, mais juste par le don, nous sommes là au cœur même de l'amour qui nous est proposé. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire que l'homme devienne un adulte spirituel, apte à dépasser ses sentiments d'ego, apte à dépasser ses sentiments de désir, de possession de l'autre, de passer de l'avoir à l'être, à je suis celui qui suis. En Dieu, au contraire, c'est mieux comme ça, le moi est pur altruisme. La personnalité jaillit éternellement comme un pur regard vers l'autre. Le Père, en effet, n'est qu'un regard vers le Fils. Le Fils n'est qu'un regard vers le Père. Et l'Esprit Saint n'est qu'une respiration d'amour vers le Père et le Fils. Le Dieu trinitaire est un Dieu inconnu, un Dieu dont nous n'avons pas l'habitude, un Dieu que les chrétiens dans l'ensemble ne connaissent pas. Quand on dit Dieu Père, c'est pas papa qui est au ciel. Dieu, c'est pas le Père Noël, hein. Mais c'est important de faire la différence. Mais c'est un argument qui m'a toujours sensibilisée parce que quelqu'un disait un jour, mais si vous parlez du Père Noël aux enfants, quand ils vont comprendre que le Père Noël n'existe pas, comment allez-vous faire résister Dieu à cet argument? Et oui, parce que le Père Noël, c'est le papa de l'avoir. Il apporte des cadeaux, il apporte l'avoir. Le Père Noël, Dieu apporte l'être. C'est complexe à faire passer. Enfin, moi, ça m'a parlé, vous, ça ne parle peut-être pas. Mais l'esprit, par la désappropriation, par ce don d'amour gratuit, incessant, constant, éternel, nous appelle dans notre attention à. Attention à l'autre, altruisme, ouverture, attention à la présence, à l'au-delà de l'autre, à l'au-delà de moi, à l'au-delà de l'autre, parce que c'est dans cet au-delà qu'on communie. C'est dans cet au-delà qu'on se retrouve soi-même et qu'on retrouve l'autre. La présence de l'esprit en désappropriant la relation nous montre le chemin que nous avons à parcourir, qui est de devenir des adultes spirituels, non pas des enfants qui attendent tout du Père, mais des êtres prêts à mettre Dieu au monde. L'Évangile est le mode d'emploi de cet itinéraire. Il présente des étapes qui sont des marches pour accéder au royaume de l'Esprit, quitter l'avoir pour aller à l'Esprit, passer de Cana à la Pentecôte. C'est un chemin extraordinaire, c'est un véritable mode d'emploi pour que nous nous divinisions. Dieu s'incarne dans cette pauvreté symbolique de la crèche pour nous inviter, bien sûr, à la pauvreté de soi. Quelle humilité! Jésus est Dieu. Dieu arrive sous l'apparence d'un enfant, d'un bébé, qui dépend des humains, qui dépend de la prise de conscience de son père et de sa mère, dans les besoins, dans la générosité. Comme tout enfant, il dépend du regard que l'on va avoir sur lui. Sa vie même dépend de ce regard que l'on va avoir sur lui. Et cet amour se présente avec une humilité extraordinaire, dont la Vierge a été secrètement avertie, et en cela elle va nous apprendre énormément, parce qu'alors elle fait passer l'humanité au divin. Hein. Et Jésus, en venant, Dieu Jésus, en venant au monde, dans cette forme extraordinairement fragile, nous montre un tout autre visage de Dieu. Il dépend de nous. Dieu est. Mais si nous ne le manifestons pas, à quoi va servir être si ça ne passe pas par nous? Il doit être mis au monde. Et dans une relation complètement différente. Non pas dans une relation d'un roi qui arrive dans son... Et comme le souhaitaient les apôtres, fais quelque chose, montre-leur, incline-les, mets-les à genoux, quoi, qu'on n'ait pas besoin de prouver que t'es Dieu, qu'ils le sachent, qu'ils s'en rendent compte. Le Christ ne répondra jamais à cela. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. C'est un cœur, c'est un amour qui ne peut s'adresser qu'à l'amour. C'est un amour qui attend notre consentement. L'amour est réciproque. Sans réciprocité, l'amour n'a pas d'essor. L'amour, c'est comme une flèche que vous lancez qui n'arrive jamais. L'amour a besoin d'être reconnu, entendu, apprécié et d'une réponse par l'adhésion. L'adhésion à l'amour. Or, comment voulez-vous que se manifeste l'amour pur si ce n'est par l'amour? Là, il faut des oreilles fines pour l'entendre. Il faut un cœur affûté pour le comprendre. Il faut en avoir besoin. Et en s'incarnant en Jésus, Dieu vient s'universaliser en étant intérieur à chacun. Jésus va créer l'intériorité de chacun dans la relation qu'il va instaurer. Il amène au monde une relation d'intériorité qui se vit d'intérieur à intérieur, d'amour à amour, de cœur à cœur. C'est dans ce cœur à cœur que l'âme va s'exprimer. C'est dans ce cœur à cœur que l'âme va chanter. Et le chant de l'âme, c'est le langage de Dieu. Marie nous initie à notre vocation d'homme. Elle est la grande initiatrice Sa virginité va bien au-delà d'une question physique. Si on aborde la virginité de Marie comme quelque chose de corporel, on va se limiter immédiatement et on va en faire une icône qui n'a rien à voir avec nous, qui nous sera extérieure, un modèle qu'on ne pourra jamais imiter. Qu'est-ce que vous voulez aller mettre des enfants en étant vierge au monde, vous, hein? Bon. Ça va bien au-delà. Zindel ne la nie pas, mais dit que ça va bien au-delà. Parce que c'est une imprégnation dans la contemplation. Marie, de tout temps, très tôt, très jeune, voit partout l'œuvre de l'esprit au travail. Elle voit Dieu au travail, elle voit Dieu en tout. Elle voit Dieu en tous, tout le temps. Elle est en dialogue incessant avec Dieu en tout, en tous. Elle se nourrit de cette contemplation. Elle se vide d'elle-même et elle incarne ce qu'elle contemple. Elle incarne Dieu. Elle est l'absolu de cette relation. Elle est l'absolu de la relation de l'homme incarnant Dieu. De l'homme qui s'ouvre à Dieu, qui se laisse emplir de Dieu, qui se laisse emplir de cet amour et qui va s'en laisser imprégner jusqu'à l'incarner et le mettre au monde. C'est à cela que nous sommes appelés, à mettre Dieu au monde. Je renverse, je prends d'autres mots. Si nous sommes élevés en dehors de la vision du sublime, on ne le contemple pas, on habite dans des murs étroits, il n'y a pas de nature, il n'y a rien, il n'y a qu'une vie quotidienne, le petit paquet de dope qu'il faut aller chercher le matin à 4 heures pour le revendre à 5 heures. On est pris dans un conflit constant, on est pris dans des humanités extraordinairement limitées, sans ouverture. Si on vit cela, on tue le sublime en nous. Et on va le tuer dans ceux qui nous seront proches, puisqu'on ne l'aura même pas approché. Si au contraire, nous sommes élevés dans un milieu ouvert au sublime, qui nous donne l'idée que nous pouvons toucher en nous le sublime, par la contemplation de la beauté. La beauté est complètement gratuite, mais encore faut-il l'éduquer. Faut-il la présenter. Faut-il en offrir l'opportunité. Mais si vous sortez jamais de votre cité, vous ne voyez même pas qu'il y a des montagnes et la mer. Si vous êtes dans un milieu extrêmement abrupt et rude, vous ne voyez pas la gentillesse ni la générosité. Ce qui vous ouvrira peut-être, justement, c'est au sein de votre cité de rencontrer quelqu'un, de tout donner. Qui pense d'abord à vous plutôt qu'à lui, qui vous fait passer avant lui. Ça ouvre. Ça, c'est du cœur à cœur qui ouvre. Et ça ouvre à un au-delà de l'humain. On voit plus grand que soi. On peut partager plus grand que ce petit moi. Marie, en contemplant, s'emplit du sublime. Elle ne voit que ça. Elle s'adresse au sublime, elle dialogue avec le sublime. Elle se vide d'elle-même dans la contemplation. Elle ne se regarde pas elle-même, Marie. Hein? Bon. Elle se vide d'elle-même, elle s'emplit de ce sublime et elle l'offre au monde. C'est beau. On ne voit jamais une statue de Marie avec l'enfant regardant derrière. Hein? Elle l'offre au monde. Elle l'offre comme une relation à elle-même et à l'autre. Parce qu'on a la relation à l'autre que l'on a à soi-même. Empreinte de ce sublime, elle l'offre comme une possibilité entre nous. Je cite Zindel, « La Vierge donc ne sera mère du Christ qu'en l'engendrant d'abord spirituellement. » C'est sa contemplation. C'est quand elle aura fait de tout son être un espace de lumière qu'elle pourra devenir le berceau d'une chair, elle-même sacrement. Sa contemplation l'emplit de l'esprit, elle devient une relation à Dieu. C'est parce que l'humanité de Jésus est cette humanité purement sacramentelle que la maternité de la Vierge est virginale. Non pas du tout d'une virginité physique seulement, qui n'aurait aucune espèce d'intérêt, ni de signification, mais d'une virginité qui est justement la kénose, l'abaissement, l'évacuation de soi, qui provoque ce toucher spirituel, ce contact de personne à personne, qui relie essentiellement la Vierge à son Fils, dès le premier instant de son existence. Ce toucher de personne à personne, on le frôle nous-mêmes dans les moments où on est en communion avec quelqu'un. Ça peut être une communion silencieuse, mais il y a des moments où on approche ou une contemplation ou quelqu'un d'autre dans cette communion de l'essence où on sait qu'on vit la même chose, où on sait que l'espérance est la même, on vient de la même... Il y a quelque chose de commun. C'est vraiment une communion qui n'est pas forcément exprimée, mais qui est vécue toute voile dehors. C'est un cœur à cœur, c'est un âme à âme. Il y a des relations d'âme à âme. Et c'est celle que la Vierge a avec le Christ. Ce contact de personne à personne. En cela, Marie est l'humanité qui se divinise. Elle nous montre le chemin pour que l'homme devienne Dieu. Ça passe par la contemplation, par le dialogue avec l'objet de la contemplation, jusqu'à ce que l'on devienne soi-même l'objet de la contemplation. Je prenais l'exemple ce matin du concert. Il y a un moment où on devient musique, où on est entraîné. On est dans la contemplation, on est dans l'autre, on est empli de musique, on est musique. Jusqu'au moment où on retombe. Si on retombe, c'est qu'on est monté, on s'est quitté. C'est ça se quitter soi-même. C'est ça l'effacement. C'est ça quand le corps, finalement, on arrive à le lâcher pour vivre au niveau de l'esprit. Il n'y a pas qu'en rêve qu'on peut vivre au niveau de l'esprit. Hein. Il y a dans cette attention, dans ces moments de forte méditation, prière, contemplation, compréhension, recherche, avec un début d'entente de ce qui nous est insufflé par la contemplation, à ce moment-là, on a cet accès à l'essence qui nous a envahis, et qui nous fait fondre nos résistances, qui nous fait fondre, qui fait fondre nos limites. C'est un état. C'est l'état de la mystique, c'est l'état de la contemplation. Et c'est un état de partage extraordinaire, parce que mon moi n'est plus un obstacle au partage. C'est pour ça qu'on est de personne à personne. Le moi n'est plus un obstacle. Je recite Zindel. Mais il y a un autre motif d'insister sur cette maternité divine, c'est que c'est là notre vocation. Nous avons précisément la charge d'enfanter Dieu. La connaissance est toujours une naissance. C'est la nouvelle naissance. Enfanter Dieu, mettre Dieu au monde. Dieu est en moi, c'est une relation qui vit avec moi. Dieu, je vis cette relation et je l'offre. Je l'offre parce que je vais donner de moi-même. Parce que je vais montrer de moi-même, dans la générosité, dans l'oblation, dans l'attention à l'autre, dans la prière. Il y a mille façons de montrer, de vivre Dieu et de le donner au monde. La prière qui est une intention à l'univers, qui s'offre, qui donne. Il y a donc en chacun de nous une vocation. Nous avons tous à être mère de Dieu. Nous avons tous à enfanter Dieu. Et je dirais même que c'est le sens du christianisme. C'est fort, hein? Et on ne peut pas évoquer la crèche sans évoquer Joseph. Joseph, c'est magnifique. Parce que Joseph, lui, au départ, sa femme est enceinte et a priori, c'est pas de lui. Et quand je dis a priori, c'est même certain, il va la répudier, mais ils s'aiment très profondément parce qu'ils ont certainement, ils se sont rencontrés à un niveau supérieur de l'être. Or, elle est enceinte. Et il va essayer de la répudier discrètement. Jusqu'à ce songe. Il a fallu un songe, et il a donc fallu qu'il soit ouvert au songe. Parce que le songe arrive aussi sur des personnalités préparées, hein. Il faut pouvoir le recevoir, le songe. Je vais vous lire ce petit passage sur Joseph parce que je trouve que Zindel en parle très bellement. Joseph prend ce parti héroïque du silence. Il ne posera aucune question il la renverra en secret à sa famille pour ne pas la diffamer. Et naturellement, Marie connaît ce drame. Elle le vit doublement, en elle-même et pour lui. Elle sait cette interrogation qui surgit en lui. Elle comprend sa stupeur, sa douleur. Elle devine aussi ce qui scelle ses lèvres et l'empêche de parler. Ces deux silences affrontés, ces deux silences infinis, ces deux silences qui devinent, qui circulent l'un dans l'autre, qui sont déchirés l'un dans l'autre et dont Dieu seul connaît l'issue, qui viendra seulement lorsque Joseph se sera endormi dans cette décision crucifiante de se séparer de cet être qu'il aime d'un amour unique, qu'il respecte plus que jamais, et dont le mystère est pour lui la ténèbre la plus déchirante. C'est alors que le songe libérateur va l'illuminer. Joseph, ne crains pas de prendre Marie ton épouse, car ce qui est né en elle est le fruit de l'Esprit-Saint. Alors il surgira de son sommeil et la prendra chez lui, et ils se retrouveront après avoir traversé cet abîme de pauvreté où ils ont renoncé l'un à l'autre, en Dieu et pour lui. Ils vont se retrouver unis pour l'éternité et unis justement dans cet enfant miraculeux qui consacre leur double virginité et qu'ensemble ils vont élever, qu'ils vont protéger et qu'ensemble ils vont donner au monde. Joseph est aussi vierge que Marie. C'est ma conclusion, mais c'est à ce à quoi nous amène Zendel. Joseph est aussi vierge que Marie. Et donc, la virginité est ouverte et accessible à qui s'empare de cet accueil du divin, de cette maternité divine. Nous sommes le berceau de Dieu. Nous pouvons le faire vivre ou pas. C'est tout le sens de Noël. C'est notre choix. Et nous avons la liberté de le refuser. Dieu nous laisse libres. Parce qu'étant que l'amour qui n'est qu'amour, il ne peut pas s'imposer. Il arrive comme un bébé. Un bébé dont le père aurait pu répudier la mère. Il arrive au monde comme une innocence offerte, comme un amour à côté duquel on peut passer, mais alors complètement. Et son père en premier. Mais cette connaissance du cœur, cette appréciation du cœur qui s'ouvre à la présence, c'est ça qui nous fait grandir. C'est dans cette attitude-là qui est une attitude de prière. Dans cette attitude de prière, oui, nous pouvons nous ouvrir, recevoir et faire grandir en nous cette présence jusqu'à ce qu'elle anime notre expression, l'expression de nous-mêmes, dans nos gestes, dans nos attentions, dans nos intentions, dans notre présence au monde. Nous sommes, oui ou non, une ouverture à Dieu au monde. Nous le mettons au monde, oui ou non, à travers nous. On n'est plus dans le pieux Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On est dans l'amour qui s'offre, on le regarde ou on ne le regarde pas. Et si nous sommes libres, c'est parce que l'amour ne peut que susciter l'adhésion, la réciprocité. L'amour ne peut pas s'imposer par la contrainte. L'amour se propose et espère le nôtre. Nous sommes l'espérance de Dieu. Alors, comment devenir Dieu, nous? C'est une bonne question, ça. Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à cet espace intérieur pour, en nous, trouver la présence? Puisque le Christ s'intériorise en chacun, il est en nous, en chacun de nous. Et il est une immense récapitulation. Et cette récapitulation, elle prend en compte le passé, le présent et l'avenir. Et elle est en nous. Alors, nous sommes appelés à sortir de ce contexte binaire que nous évoquions tout à l'heure, de l'amour possessif, qui est pour exister a besoin de prendre et de recevoir, prendre, recevoir, prendre, recevoir, pour arriver à l'être. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire,
Mais ce qui veut dire que nous ferons en fonction de ce que nous sommes. Notre objectif premier, c'est d'être. Parce que notre faire, de toute façon, s'appliquera à traduire ce que nous sommes. Si nous voulons faire sans être, nous perdons contact avec notre être. Nous perdons contact avec notre être. Et donc, nous avons aussi à nous faire homme, à développer en nous cet espace où Dieu se rencontre, en petit à petit, en entrant dans la relation trinitaire, en amenant l'esprit, en nous rendant la présence réelle, en nous reliant à la présence. Vivre la Trinité, c'est se relier. C'est vivre relié. Parce que quand nous sommes reliés, nous nous apercevons que nous sommes un. Nous sommes tous un. Parce que c'est Dieu qui nous relie. C'est l'amour qui nous relie. C'est l'esprit qui nous relie. C'est ça qui nous rend homme et qui nous permet de communier ensemble parfois. C'est dans cet espace réservé à cet au-delà de notre dépassement de nous-mêmes, à ce petit au-delà, à ce petit supplément d'être qui nous ouvre le domaine de l'âme, auquel on atteint souvent dans la vie. Hein. Après, il faut s'y accrocher, parce que quelle que soit notre expérience spirituelle, et nous en avons tous, d'expérience de nature spirituelle, il est important pour nous de nous en souvenir, de les vivre et de les approfondir, de les rechercher et de les susciter. Nous avons chacun notre façon d'accéder à l'infini, à ce qui éclate nos limites intérieures, à ce qui nous aide à dépasser notre ego, à ce qui nous rend, ce que nous disions tout à l'heure, ouverts à l'infini et qui nous plonge dans la contemplation qui nous fait nous oublier nous-mêmes. C'est dans cet oubli nous-mêmes qui n'est jamais, jamais un déni de soi, ça n'a rien à voir, c'est le contraire. C'est dans cet oubli de nous-mêmes qui est lié au ravissement et qui, à ce moment-là, nous permet d'amollir nos limites pour les transfigurer, pour les dépasser. Et c'est dans ce dépassement qu'on communie à l'autre. C'est dans ce dépassement. Lorsque nous voulons nous intérioriser, nous pouvons aussi penser à cette image de la crèche, qui n'est qu'intériorité, où l'amour infini prend une toute petite présence qui irradie l'univers. Nous pouvons, nous aussi, à l'image de Marie et de Joseph, nous laisser emplir de cette présence divinisante afin de l'incarner et de l'offrir. Arriver à cette relation à l'autre et à soi-même, légère, sans attente. Souvent, on s'attend soi-même et on s'attend toujours au tournant. Et ça, c'est lourd. Je suis celui qui suis, nous attend dans je suis. Dans nos moments de méditation, dans nos moments de contemplation, de prière, d'oubli de nous-mêmes, nous approchons je suis. La relation finit presque par s'oublier elle-même parce qu'elle est, comme un oiseau qui ne serait que vol. L'image est belle, elle est à retenir. On n'a pas le poids de l'oiseau, on n'a que le vol. Si dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation à l'autre, nous tentons d'ôter tout ce qui relève de l'avoir, de la possession, de l'attente, de la prédation, d'obtenir, de l'utilisation, en passant au contraire dans l'écoute, l'accueil, l'attention bienveillante, je suis. Nous parlions de l'écoute. L'écoute, il faut passer au-delà de son ego pour être dans l'écoute, pour laisser l'autre advenir. Donc ce n'est pas nous qui intervenons, on n'est pas là dans le conseil, on est là dans l'écoute parce que l'autre doit arriver finalement tranquillement à sa solution. Dieu est en lui, il trouvera. Nous sommes chacun une capacité de Dieu. Sauf si évidemment on peut donner un conseil facile et qu'il est attendu, mais ça c'est l'idée, c'est d'être, pas de chercher à faire dans un premier temps ou à avoir, être. Et ce chemin de la rencontre, il se fait à deux, mais nous sommes toujours accompagnés
Et pour peu qu'on y soit attentif, dans notre vie, on a toujours des petits signes. Accrochons-nous à ces signes. Ne les réfutons jamais. Ne les oublions pas. Vivons-les. Nourrissons-nous de ces signes. Soyons-y attentifs. C'est l'amour qui se manifeste. L'amour ne peut se manifester que par la tendresse, que par l'attention. Et cette attention, nous en sommes environnés. Ne serait-ce que dans la nature, il suffit de la regarder. La beauté est un don qui nous est fait pour, précisément, nous ouvrir à ce qu'il y a en nous de plus grand que nous et qui est ému dans cette rencontre. Nous sommes émus parce qu'en nous, Dieu est. Et que quand nous nous ouvrons à la beauté ou à ce qui nous touche, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait nous oublier nous-mêmes, c'est une communion qui touche en nous la présence. En nous, la présence répond à la présence. Nous sommes constamment accompagnés. Je vous cite Zindel. C'est prodigieux. Dans cette nuit de Noël, nous changeons de Dieu. Nous apprenons à connaître un autre visage de Dieu et un autre visage de l'homme. Car si Dieu n'est pas un pharaon, si Dieu n'est pas un dominateur, si Dieu n'est plus un maître, il apprendra à l'homme le chemin d'une autre grandeur, non pas la grandeur de celui qui domine, mais la sienne, une grandeur d'amour où il s'agit simplement, en se donnant, de tout donner. Nous sommes là au cœur d'une sagesse extraordinaire. Nous sommes tous nés sans avoir connu cette sagesse. Nous avons été jetés dans le monde sans l'avoir demandé. Et nous nous sommes rencontrés avec nous-mêmes, enfermés dans une nature dont nous étions captifs. Comment sortir de là ? Comment ne pas éprouver une immense révolte devant cette nécessité d'exister ? Et voilà que Jésus veut nous apporter la libération. Il veut nous apprendre ce que nous pouvons faire de tout ce que nous sommes, de ce qui nous a été imposé, de toute cette nature que nous disons humaine et qu'il est si peu. Nous pouvons la recueillir, la ressaisir, nous pouvons en faire un élan d'amour, nous pouvons nous en dessaisir pour en faire à Dieu un don merveilleux en réponse à celui qu'il nous fait. Il y a dans cette nuit la naissance de l'homme à la dignité de la personne. Il y a dans cette nuit la révélation de Dieu dans sa pauvreté éternelle. Il y a cette rencontre prodigieuse entre le visage de l'homme qui aspirait vers la libération et ce visage de Dieu imprimé dans notre cœur qui est le libérateur. Il y a cette rencontre, il y a cette découverte en Jésus-Christ. Noël, c'est cela. Un monde nouveau, une humanité nouvelle, un Dieu tout neuf, une histoire qui commence, dont l'unité se fait jour en celui qui est capable de l'unifier en un seul dessein, en la pénétrant du même souffle d'un éternel amour. Tout commence aujourd'hui, tout commence lors de nos prises de conscience, tout commence aujourd'hui.
Noël, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous venez de suivre l'intervention de France-Marie Chauvelot, écrivain, auteur de la biographie de Maurice Zundel. Intervention enregistrée le 9 décembre 2023 à l'abbaye de Belloc Habitat Humanisme lors des samedis de Belloc, proposés par la communauté de Belloc et Radio Lapourdi. Vous pouvez bien sûr réentendre cette conférence sur notre site internet www.lapourdi.net.